Donc c'est dans Exode, au chapitre 18. Jéthro, prêtre de Madian, se rendit auprès de Moïse, dans le désert, avec la femme de Moïse, Séphora, et les fils de Moïse, Gershom et Éliézer. Il alla à proximité de la montagne de Dieu, où Moïse avait dressé son camp. Il lui fit annoncer, « Moi, Jéthro, ton beau-père, je viens te rendre visite avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna devant lui et l'embrassa. Ils prirent réciproquement de leurs nouvelles, puis entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et aux Égyptiens pour délivrer Israël. Il lui parla aussi de toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin. Et lui dit comment l'Éternel les en avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré des Égyptiens. « Loué soit l'Éternel, s'écria-t-il, qui vous a délivré des Égyptiens et du Pharaon, qui a libéré le peuple de la domination des Égyptiens. À présent, je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car il a montré alors qu'on tyrannisait les Israélites. » Puis Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas sacré avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu.
Nous continuons notre série de prédications sur l'Exode, deuxième livre de la Bible qui nous parle de cette sortie Exode, Exodos, la sortie d'Égypte. Alors, l'avantage d'une série, c'est que il y a une certaine continuité hein, dans les prédications. On étudie tout un livre biblique et aussi on arrive à parler de sujets que l'on n'aurait peut-être pas choisi de parler, comme la semaine dernière, les murmures et les grognements. Ça vient dans le texte, on en parle, mais je n'aurais pas choisi ce sujet en particulier. Mais l'avantage des séries, c'est qu'on parle de ces sujets quand même. Et puis, aussi, une série, ça nous permet de découvrir des passages un peu surprenants. Une visite qui fait la différence. Et nous allons lire la suite du récit. Le lendemain, il y a un tout en trop, Moïse siégea pour rendre justice au peuple, du matin au soir. Les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse, Jéthro, vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit, « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces, tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois, leur enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines et chef de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. C'est surprenant, n'est-ce pas? Comme texte, qu'est-ce qu'il vient faire là, ce texte? Nous avions jusqu'ici, je reviens en arrière, voilà. Nous avions jusqu'ici une histoire de l'Exode très forte, hein, avec l'appel de Moïse dans le buisson ardent, avec une force théologique incroyable derrière cette révélation de Yahvé, le tétragramme. Je suis celui qui suis. Nous avions la délivrance d'un peuple qui est sous la servitude du Pharaon, un plan de salut conçu par Dieu par sa compassion et son amour, des miracles puissants, une mer qui s'ouvre en deux, un rocher qui laisse... qui dégorge d'une eau pure, qui coule du rocher, d'une manne céleste qui vient d'en haut et qui se dépose sur le sol et qui permet de nourrir le peuple d'Israël. Et nous voici maintenant dans un cours de management suite à un audit de la société Jétro, spécialiste en gestion des ressources humaines. Moi, je vous l'avais dit, ce passage, enfin, est surprenant, et moi, je trouve que c'est un ovni dans l'histoire de la rédemption du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte. Mais en même temps, et vous vous rendez compte, un récit surprenant, mais déterminant pour la suite, il a tout à fait sa place dans l'histoire de la rédemption du peuple hébreu qui prépare la venue du Rédempteur. La rédemption du peuple hébreu, la sortie d'Égypte qui prépare la venue du Rédempteur, le Messie. Et nous sommes, et il y a un détail qui vous a peut-être pas interpellé, mais je vous le dis quand même, c'est déterminant pour la suite, pour la petite et pour la grande histoire, mais nous sommes dans le Sinaï, dans le désert, qui est à la fois un mot qui désigne le désert, le désert du Sinaï, mais aussi la montagne du Sinaï, le mont Sinaï qu'on appelle aussi Horeb. Et le mont Horeb, c'est là où tout se passe, où tout s'est déjà passé. Dans Exode 3, le buisson ardent, c'est à Horeb, la montagne sainte de Dieu, où il se révèle. Et où tout va se passer également, dans Exode 19, ah là, c'est vrai, comme disait Daddy, il faut appuyer avec délicatesse. Jétro se rendit auprès de Moïse, près de la montagne de Dieu, où Moïse avait dressé son camp. Là, on est à Horeb, voilà. Et en Exode 19, on va aller vraiment sur la montagne de Dieu, après être parti de Réphédim, ils entrèrent dans ce désert, ils y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Exode 19, Exode 20, Dieu donne sa loi à Moïse et par l'intermédiaire de Moïse à son peuple. On est dans une période de transition. Une loi qui va être donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse et qui va structurer, réguler la vie du peuple d'Israël pour que ce peuple puisse accomplir sa mission, c'est-à-dire d'être une lumière pour les nations. La loi aide ce peuple choisi par Dieu, précieux aux yeux de Dieu, pour justement être un témoin de parmi les nations. Et on oublie souvent dans cette histoire, le but de cet exode, c'est que ce peuple soit un peuple, soit une lumière pour éclairer les nations. Mission qui a été donnée à Abraham, promesse qui a été donnée à Abraham, continuée par Moïse. On se souvient qu'à la sortie d'Égypte, il y avait un ramassis de personnes, c'est-à-dire des personnes non juives. Un groupe hétéroclite, un groupe d'étrangers qui participent à la rédemption, à la sortie d'Égypte. Et le texte met l'accent à différents moments sur cela, qui profitent, entre guillemets, de la délivrance. On voit aussi Jéthro, on reparle de ce Jéthro, le beau-père, il est prêtre de Madian, c'est-à-dire une religion étrangère. Il n'est pas israélite, il est étranger, mais il est inclus, il est invité dans cette histoire d'Israël. Le but de l'histoire de Dieu, c'est que tout le monde puisse voir la lumière. Et la loi vient pour permettre à ce peuple choisi par Dieu de porter cette lumière dans de bonnes conditions. Mais pour que la loi puisse être appliquée, il faut des juges. Il faut une structure, il faut une institution. Il y a quelqu'un qui disait très justement, un peuple libre a besoin de justice. Un peuple libéré a besoin de justice et qu'elle soit donnée dans de bonnes conditions. Et donc ce passage où on nous parle de management de professionnel est crucial pour la suite dans la grande histoire du salut que Dieu a pour son peuple et pour toutes les nations. La suite pour déterminant pour la suite de l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et puis elle est déterminante aussi pour l'histoire de Moïse, qui est en danger de burn-out, comme on dit avec la sang. Le texte met l'accent sur la peine, Jéthro voit la peine que Moïse se donne. Et il lui dit, tu finiras à coup sûr par t'épuiser, car la tâche dépasse tes forces. En fait, il le questionne. Pourquoi t'épuises-tu? On est dans le burn-out de professionnel, de Moïse, qui est par définition un cramage. Moïse risque de se cramer à l'ouvrage, un épuisement. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les grognements de la semaine dernière? C'est parfois difficile de conduire un peuple qui grogne. Le texte ne le dit pas, mais dans Nombre 11, l'histoire se répète, mais là, on est après le mont Horeb, après la loi. Mais les Israélites se plaignent, c'est là où il est question de poireaux, d'ail, de concombres, et qui disent, on en a marre de la manne tous les jours. Mais voilà ce que va dire Moïse, je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Et peut-être que vous êtes venu ce matin aussi en disant, la situation que je vis, c'est trop lourd pour moi. Prends ma vie. Ça va loin. Moïse dit à Dieu, prends ma vie, plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. Ça nous fait penser à Élie, le prophète, après la victoire sur le mont Carmel. Et c'est un des textes que je préfère. 1 Roi 19, et qui demande à Dieu de prendre sa vie aussi alors qu'il est sous le genêt. « Prends ma vie, Seigneur, parce que je ne suis pas meilleur que les autres. » En fait, c'est une litote pour dire « Je suis moins bon que les autres. » « Prends ma vie. » Il y a Élie, si Moïse, c'est le burn-out, Élie, sous le genêt, vit une dépression de type mélancolique profonde. Comme quoi, personne n'est à l'abri, ni Moïse, le grand leader, appelé l'ami de Dieu, ni Élie, le prophète victorieux sur le mont Carmel. Comme quoi, personne n'est à l'abri, mais comme quoi Dieu s'occupe de chaque personne, de chacun d'entre nous, quelle que soit sa situation, quel que soit son état dépressif, quel que soit son burn-out, quel que soit son épuisement. Pas de culpabilité pour les cramer, pas de culpabilité pour les déprimer, mais un regard bienveillant de Dieu sur vous et sur Moïse en particulier par l'intermédiaire de Jéthro, son beau-père, le Madianite, qui a fait le court voyage. Madian, c'est pas loin du Sinaï et du mont Horeb, pour ramener à Moïse son épouse, Séphora, et ses deux fils. C'est déjà un signe de préoccupation et de gentillesse. Une visite qui va faire la différence. C'est le titre de la prédication de ce matin. Mais Jéthro va aller plus loin dans son intérêt, pas seulement en amenant Séphora et les deux fils, mais il va lui donner un conseil qui va sauver Moïse. Et c'est là qu'on se retrouve dans ce cours de management dont je vous parlais déjà. Notons quand même que c'est pas mal, ce cours de management, c'est il y a 3500 ans. On n'a pas inventé grand-chose depuis. Alors, je ne vais pas trop détailler. Certains l'ont fait, les détailler en verset 14, examen de la situation, verset 15, mise en question, verset 16, évaluation de la procédure, verset 18, définition des rôles, verset 19, délégation avec description de fonction, verset 21, qualification requise, sélection des responsables, etc. On va pas. Mais c'est intéressant quand même. Et j'aimerais relever quelques points qui me paraissent importants et pertinents. D'abord, ce qu'il faut souligner dans cette histoire, c'est qu'il y a une relation de confiance entre les deux hommes, entre Jéthro, le beau-père de Moïse, et Moïse. Ils se connaissent bien. On se rappelle qu'après avoir tué l'Égyptien, Moïse est parti dans le désert de Madian, et là, à un puits, comme c'est souvent ces histoires d'amour de l'Ancien Testament, il découvre Séphora, et puis le beau-père, et il s'intègre, qui est la fille de Jéthro, il se marie avec elle, il a Gershom comme premier fils, et il s'intègre, et il passe 40 ans à Madian. Ils se connaissent bien. Jéthro est donc un prêtre d'une religion locale, mais il n'est pas non plus insensible au témoignage de son gendre. C'est un homme sage et ouvert. Et puis, et c'est pour cela que nous avons lu la première partie du chapitre 18, la visite, ils s'embrassent, ils se donnent des salutations d'usage, Moïse ouvre sa tente, et Jéthro, et là, Moïse raconte, et il se raconte. Il raconte tous les événements sans oublier les difficultés. Peut-être parlait-il aussi des grognements de Mara ou de Massa et Meriba. Et Jéthro écoute. Moïse raconte et Jéthro écoute. Et puis Jéthro va faire quelque chose d'assez exceptionnel pour un prêtre étranger d'une religion étrangère. Il va, et c'est écrit dans le texte, il va se réjouir en bas. Verset 11. Il se réjouit. Alors qu'il n'a aucun intérêt dans l'histoire. Il se réjouit de ce que l'Éternel fait pour Israël. Le philosophe juif Spinoza disait que l'amour est la capacité qu'a une personne de se réjouir du bonheur d'autrui. L'amour est la capacité qu'a une personne de se réjouir du bonheur d'autrui. Et manifestement, Jéthro est dans cette situation-là, dans cette situation-là. Il se réjouit du bonheur de Moïse, et du bonheur de Moïse, et du bonheur d'Israël. Il aime Moïse, et c'est dans cette relation de confiance qu'il va parler à Moïse et qu'il va lui dire la vérité. Le lendemain des embrassades et des réjouissances, Jéthro prend le temps d'observer, de poser des questions. Tiens, pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? On s'aperçoit d'ailleurs que Moïse, comme j'ai insisté dans la lecture, Moïse se justifie un peu. Mais les gens sont là, ils attendent. Ils attendent de moi quelque chose. Hein, je dois faire ce pourquoi les personnes attendent que je fasse. Et il va lui dire la phrase qui tue. Ce que tu fais n'est pas bien. Attention, le beau-père. Ce que tu fais n'est pas bien. D'abord, c'est pas bien pour toi, Moïse. Tu vas t'épuiser. Tu vas connaître un burn-out. Et il n'est pas bon que Moïse s'épuise. Il serait bon qu'il revienne au cœur de sa mission. Et puis, c'est pas bon non plus. C'est pas bien non plus pour le peuple. Ce que tu fais n'est pas bien pour le peuple. On remarque que Jéthro est sensible à l'état physique, mental, psychique de Moïse, mais il est sensible au peuple aussi. Comment ça se fait qu'ils font la queue toute la journée? Et puis il lui dit, tu risques de t'épuiser, Moïse, et le peuple qui est avec toi également. Et donc Jéthro, un double souci, il pense à son gendre pour qu'il puisse durer, mais il pense aussi au peuple pour qu'il puisse avoir une justice qui fonctionne bien, donner dans de bonnes conditions, une justice avec le bon tempo, pas trop rapide, ça donne une justice expéditive, mais pas trop lente non plus, qui encourage négativement les gens à se faire justice eux-mêmes. Une bonne justice donnée dans de bonnes conditions pour que ce peuple ne se fatigue pas, ne se s'épuise pas avec Moïse. Une justice pérenne pour le peuple. Moïse, une vie pérenne aussi pour qu'il puisse continuer durer, comme on dit à Bruxelles. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est une phrase choc, une phrase négative, mais elle est dite dans cette relation de confiance, elle est dite par un ami qui te rend visite, qui t'écoute et qui se réjouit avec toi de ce que Dieu fait dans sa vie. Il y a un proverbe qui dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et puis, c'est dans ce contexte que Jéthro va faire une suggestion pratique. Il propose une solution, non, pas une solution, une suggestion, un conseil. Premièrement, de faire le bon choix. Choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptible. Ça peut être utile pour des juges de respecter la vérité, n'est-ce pas? Incorruptible, là aussi. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup de la corruption. Déjà à l'époque. Choisis bien ces personnes avec pas seulement des compétences, mais aussi des critères moraux. Et puis, fais des placements. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef. Chef. Des juges, chef. À l'époque, c'est un type, on est dans le même domaine. Le livre des juges nous parlera de juges sur Israël qui ont aussi un pouvoir politique. Mais des chefs, des leaders, des responsables. Et puis, on en arrive, allège ainsi ta charge qu'il la porte avec toi. La Bible en français courant traduit, de cette manière tu allégeras ta tâche puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Un partage des responsabilités, une délégation, une répartition des tâches. Servir ensemble, à plusieurs. Alors on est peut-être, diront certains, dans la stratégie d'entreprise, mais on est au 15e siècle, avant Jésus-Christ, et il est question, une fois, du plan de Dieu pour son peuple, de la pérennité de la justice, de la durée de Moïse en tant que leader. Et Jéthro ne va pas hésiter à parler de résultats. Tu pourras tenir bon si tu fais ça. Tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Tout va se faire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir le souci de Jéthro, c'est vraiment le bien commun. Le bien commun de Moïse, du peuple. Pas ses propres intérêts, il gagne rien dans l'histoire. Le bien commun. Mais l'histoire, la grande et la petite, l'histoire de l'Alliance et l'histoire de Moïse ne s'arrête pas à cette suggestion. Moïse, le prince d'Égypte, le leader d'un peuple de 600 000 âmes, selon les dernières estimations, choisi par Dieu pour accomplir la délivrance de son peuple, qu'on appelle l'ami de Dieu encore une fois, va accepter la suggestion de son beau-père, prêtre d'une religion étrangère, un tout jeune converti, parce qu'on voit qu'il reconnaît le Dieu d'Israël, va accepter la proposition et il va la mettre en place parce que Jéthro était sage, mais surtout parce qu'il sent que cet homme lui veut du bien. Les commentateurs juifs ne sont pas tendres avec Moïse, ils disent que Moïse était orgueilleux, qu'il ne voulait pas lâcher prise sur son précaré, qu'il voulait garder la main mise sur la justice pour son peuple. Mais on voit plutôt une énorme humilité de la part de Moïse. Il en faut pour accepter les conseils de son beau-père, il en faut pour lâcher un peu les commandes, même s'il est épuisé, et Moïse le fait. La Bible dit dans le livre des Nombres que Moïse est le plus humble des hommes sur la terre. Ça nous met un doute sur le fait que Moïse ait pu écrire le livre des Nombres, hein, parce que dire que Moïse est le plus humble, bon, c'est pas très humble, mais c'est le plus humble. Il est très humble. Il a dû apprendre de la part de son beau-père madianite, j'insiste, étranger. Il a dû apprendre que quand on y va seul, on va plus vite, mais quand on y va à plusieurs, on va plus loin. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, de travailler ensemble, de servir ensemble, en groupe ou en équipe, de partage de responsabilités. Il s'agit ici du sacerdoce universel, comme dans 1 Pierre 2, du service universel, tous prêtres. L'Église, on les répète souvent, est un lieu d'accueil, un lieu de grâce, un lieu d'écoute, un lieu de compassion, un lieu d'encouragement, mais aussi un lieu de service et de service groupé. C'est le dernier verbe de notre adage. Témoigner, aimer, grandir, servir. Et nous aussi, nous devons apprendre que quand on y va seul, on va peut-être plus vite, mais y aller ensemble, on va plus loin dans la mission que Jésus nous a donnée d'être une lumière sur la colline et d'être celle de la terre. On va plus loin ensemble pour remplir notre mission de témoin, ensemble avec les dons, avec les charismes de chacun, pour servir le corps de Christ et pour briller dans le monde, être un espoir pour ce monde. Alors on a parfois comparé l'Église à un match de foot, avec 30 000 spectateurs assis dans les gradins qui auraient désespérément besoin d'exercice et 22 joueurs sur le terrain qui auraient désespérément besoin de repos. Et il y a une autre histoire que j'ai lue, c'est que dans un match de foot très local, tout le public est descendu des gradins, alors ils étaient quelques centaines, pas plus, et a envahi le terrain, non pas pour célébrer la victoire de leur club, mais pour jouer au foot avec les autres joueurs. Une pagaille monstre, j'imagine, mais une belle pagaille. Descendre des gradins pour jouer avec les autres en groupe. Je termine par quelques questions qui sont là pour nous permettre de nous approprier ce récit qui est dans la parole de Dieu. Des questions d'appropriation. Exposer la parole de Dieu, c'est pas juste faire des beaux discours. Yvonne l'a dit tout à l'heure que la parole de Dieu réside, demeure parmi vous dans toute sa richesse. La richesse qui est à s'approprier en se posant peut-être quelques questions est utile pour notre voyage personnel. Sais-tu où sont tes limites ? Sais-tu où est ta capacité de charge ? Et vous voyez un petit sigle là, qui est le rond barré. C'est pour les bateaux. C'est un Anglais au 19e siècle qui s'était aperçu qu'il y avait 1000 naufrages dans la marine marchande en Angleterre par an, des bateaux qui coulaient. Et il a mis au point une ligne internationale de charge, qui s'appelle. Si le bateau qu'on chargeait avec le fret, si l'eau dépassait cette limite de charge, il fallait enlever des choses pour que le bateau revienne en dessous, pour qu'il ne coule pas. En français, c'est la ligne internationale de charge ou la ligne de franc-bord. Voyez où est la comparaison. Connaître ses limites sur la charge que l'on peut prendre à bord. Deuxième question. Es-tu prêt à écouter les conseils et à en donner ? Es-tu prêt à écouter les conseils ? Et à en donner en vérité et dans l'amour ? Tellement important, comme Jéthro a pu le faire. Et puis, es-tu d'accord pour partager la charge ? Il y a deux mouvements pour partager cette charge. Moïse doit lâcher du lest. Es-tu prêt à lâcher du lest ? Et puis il y a le deuxième, pour partager la charge, il faut pouvoir prendre la charge de l'autre, pouvoir prendre, participer, collaborer, lâcher du lest ou descendre des gradins. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole encore une fois, pour ces récits que je ne choisis pas, mais qui sont là dans le livre de l'Exode. Merci pour la pertinence, l'actualité de ta parole. Merci parce qu'elle nous questionne, comme Jéthro l'a fait à Moïse. Merci parce qu'elle nous dit la vérité sur notre besoin d'être déchargé, sur notre besoin de te faire confiance. Et Seigneur, comme Jéthro, le beau-père, rend visite à Moïse, nous réclamons ce matin, enfin nous réclamons pas, mais nous ouvrons notre tente pour que toi, notre Père, notre bon Père, nous rende visite et nous renouvelle pour ton service, pour la mission que tu nous donnes, d'être lumière dans ce monde. Et celle de la terre. Au nom de Jésus-Christ et de sa parole, nous te prions. Amen.